7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Mickaël, direction le Kenya. Le Kenya incapable de faire face au retour des ex-Shabab.
Ouais, des milliers de jeunes hommes partis faire le djihad en Somalie, combattre au sein de ces milices islamistes, certains depuis 10 ans. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont très nombreux à rentrer au pays. Retour qui s'accompagne évidemment de multiples interrogations. Que faire de ces anciens djihadistes? Sont-ils vraiment repentis comme ils l'affirment, ou risquent est-il au contraire de basculer de nouveau dans la violence? Les autorités kényanes, c'est simple, n'ont aucune réponse. Bonsoir Bruno Meyerfeld en direct de Nairobi.
Bonsoir Mickaël.
Alors vous êtes rendu précisément Bruno dans le comté de Kwale, dans le sud du Kenya, à la frontière avec la Tanzanie, région très touristique, connue entre autres pour ses plages de sable fin, mais c'est aussi l'une des régions du pays d'où est parti le plus grand nombre de jeunes, et c'est celle qui aujourd'hui en accueille le plus, près d'un millier d'ex-Shabab revenus ici depuis un an.
Oui, Mickaël, je me suis rendu à Mwalo-Handa. C'est un petit village perdu dans les collines entre les champs de bananiers et les baobabs auxquels on n'accède qu'après une très longue route. Arrivé, je me rends dans la maison d'Omar et Mwanapili. Ce sont deux vieillards, très dignes. Ils font la sieste, on les réveille, leur regard est perdu. Il faut dire que 3 de leurs petits-enfants ont rejoint les Shebab. L'un d'eux, Ali Hassim, a même été abattu il y a quelques mois par la police alors qu'il venait de rentrer de Somalie.
On ne savait rien de son engagement chez les Shabab. J'ai été très choqué et surpris lorsque la police l'a tué et a dit avoir retrouvé des grenades sur lui. Je ne comprends pas comment ça a été possible. Il est vrai qu'il avait disparu pendant un an, mais il nous avait dit qu'il était professeur de religion islamique assez loin d'ici. Des rumeurs disaient qu'il était parti en Somalie combattre avec les Shabab. Mais ça, on n'en savait rien.
Devant la maison de Mwalo-Handa, il y a un joli manguier et sous les branches, un tas de terre retournée. Dedans, le corps d'Ali Hassim, leur petit-fils. Personne n'ose s'en approcher, Mwanapili, la grand-mère.
C'est très choquant. On croit que nos enfants partent à la madrasa apprendre ou enseigner la religion. Et après, on apprend par la police qu'ils deviennent des terroristes, comme Ali Hassim. Et nous, sa famille, on est rejetés par les autres habitants du village. On est catégorisés comme la famille du terroriste. On est isolés et rejetés.
Mais est-il certain, Bruno, que cet Ali Hassim était encore un Shabab combattant?
Non, Mickaël. Sur la côte, Shabab et forces de sécurité s'affrontent. Très violemment, les Shabab assassinent les dirigeants locaux et la police ne fait pas de différence entre les djihadistes actifs et les repentis sincères. À Kwale, on a peur, on se tait. Je rencontre Mohamed, il est informateur de la police. Menacé de mort par les Shabab, il change chaque jour d'hôtel et de village.
C'est la guerre ici à Kwale, une véritable lutte à mort. Si un Shabab trouve un policier, il va le tuer. Et si un policier trouve n'importe quel Shabab, il va le tuer aussi. La police se comporte très durement avec la population. Elle fait des raids surprises, parle mal aux habitants, torture, commet des exécutions extrajudiciaires sans qu'il y ait de procès contre les Shabab qu'elle soupçonne d'être dangereux.
Mohamed le dit, c'est la pauvreté qui pousse les jeunes à rejoindre les Shabab. À Kwale, 7 habitants sur 10 vivent avec moins d'un dollar par jour.
Et face à cette multiplication des départs et donc surtout des retours, Bruno, le gouvernement kényan fait-il quelque chose?
Non, Mickaël, les Shabab repentis sont livrés à eux-mêmes, dégoûtés, perdus, fauchés, lassés, les 4 parfois. Ils se cachent de peur d'être attrapés par la police ou assassinés par les combattants Shabab qui les accusent de traîtrise. À Kwale, seule une 50aine sur 1 000 000 aurait reçu un programme d'assistance du gouvernement. Une ONG, une seule, Aki Africa, essaie de leur apporter quelques réponses. J'ai rencontré son directeur, Hussein Khalid, dans ses bureaux du port de Mombasa.
Comme le dit le proverbe, un homme désœuvré et livré à son sort est un terrain de jeu pour le diable. Sauf que là, on ne parle pas de monsieur tout le monde. On parle de combattants qui ont fait la guerre, qui savent utiliser des armes, qui savent survivre en milieu hostile. Mais si les Shabab repentis replongent dans la violence, ce ne sera pas en Somalie, mais ici au Kenya, à Kwale. Si on ne leur donne aucune opportunité, si on ne les prend pas en charge, on le regrettera. Le problème des terroristes rentrés au pays est une bombe à retardement qui approche de plus en plus du point de détonation.
Voilà la bombe à retardement des ex-djihadistes. Merci beaucoup Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter au Kenya et en Afrique de l'Est.
Et on part maintenant au Liban, Michael. Le Liban qui, après plus de 2 ans et demi de vide institutionnel, a enfin un chef de l'État.
Eh oui, c'est Michel Aoun, élu président le 31 octobre dernier. On en avait parlé ici même. Et parmi ses dossiers prioritaires de président, l'interminable crise des déchets qui empoisonne le pays depuis près de 2 ans. Décharges officielles totalement saturées et habitants contraints de jeter leurs ordures dans les rues ou les vallons. Insupportable par exemple quand ça dure quelques jours à Paris ou à Marseille. Alors, imaginez un peu ce que vivent les Libanais depuis l'été 2015, à tel point que les manifestations populaires ont fini par donner naissance à un mouvement civique qui dépasse la seule crise des ordures, dénonçant aujourd'hui la corruption et l'immobilisme qui gangrènent le pays. Bonsoir Mathilde Himi.
Bonsoir Michael.
Alors vous étiez sur place il y a quelques jours Mathilde, et vous avez suivi la mise en place d'abord d'un projet pilote de tri des déchets.
Et ne vous attendez pas à une solution technologique, dernier cri, ou bien une réflexion très originale. Il s'agit simplement de faire trier aux habitants leurs ordures, de les compresser, puis de les réexpédier. Sauf que cette démarche est complètement inédite au Liban, dans un pays où les autorités ont même songé un temps à exporter les ordures à l'étranger. Direction Bikfaya, sur le mont Liban, le fief historique des Gemayel. Comme toutes les communes, il y a 1 an et demi, Bikfaya s'est retrouvé sous les ordures, car le principal centre d'enfouissement de Naamé, qui ne retraitait quasiment pas les déchets, arrivait à saturation avec 12 ans d'avance. Nicole Gemayel, présidente de la municipalité, raconte la suite.
Ça ressemblait à toutes les rues du Mont Liban, les ordures entassées dans les rues, les odeurs, c'était horrible. On a vite compris qu'il fallait absolument agir. On a commencé à trier les ordures sur place, dans les rues. Des groupes de volontaires, de jeunes, qui ont fait du porte-à-porte et qui ont expliqué aux gens que le tri était la solution à cette crise-là.
La municipalité a ensuite racheté à la Finule un hangar, récupéré des machines pour affiner le tri. Visite guidée avec la responsable Lina Gemayel.
Le sac arrive ici, on le décharge, un des employés l'ouvre, il monte ce que vous voyez comme un convoyeur, il arrive à un tapis et chacun des employés est spécialisé dans un tri. L'un pour les bouteilles, l'autre pour le plastique. Les sacs donc sont remplis, ils arrivent, ils sont mis de côté, puis on les presse.
Les 16 salariés étrangers trient 10 tonnes par semaine. Verres concassés, canettes et cartons compressés sont revendus aux usines alentours. Le reste est expédié au centre d'enfouissement. Et là, Nicole Gemayel renvoie vers l'État.
On a une quantité d'ordures entre 20 et 25% qui n'est pas utilisable. Donc il faut ou on l'enfuir dans des déchetteries, ou bien les brûler dans des incinérateurs. Mais comme les incinérateurs sont interdits au Liban, il faut que l'État trouve un moyen après tous les traitements.
Cette démarche inédite n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Bikfaya est le laboratoire politique du parti chrétien Kataeb qui pousse pour une décentralisation du ramassage des ordures.
Et cette crise des déchets a donc montré au grand jour, Mathilde, les carences des autorités libanaises et surtout cette défiance sans précédent de la société civile.
C'est en tout cas le point de vue de Mario Gorayeb de l'association Arc-en-Ciel. Il a conseillé la municipalité de Bikfaya sur ce projet.
Le problème au Liban est un problème de gouvernance. Les normes, les critères, la façon de faire n'est pas bien déterminée par le centre. On a beau parler de la décentralisation, mais si on n'a pas une autorité centralisée forte qui puisse diriger ou mettre ses autorités locales décentralisées sur le bon chemin, on n'aurait rien fait. Donc maintenant, ce qui est essentiel, c'est recréer cette confiance entre le citoyen et l'État à travers la constitution d'un comité national qui, lui, puisse établir ses normes. Et deuxièmement, libéraliser le secteur de la gestion des déchets.
La mise en concurrence permettra de faire baisser les coûts, dit-il, à condition d'endiguer en parallèle la corruption. Le centre de tri de Bikfaya gère désormais les ordures de 8 villages et doit ouvrir un grand composteur pour les déchets organiques.
Mathilde Himi, de retour du Liban. Merci Mathilde. Et pour finir, Nicolas, si je vous dis qu'il est à la carte de tous les restos végétariens de Paris, Berlin, Londres ou New York, pas un seul brunch hipster sans lui, qu'il soit en lamelles, en cube, en sauce, en purée ou en toast. Pas du tout. C'est la star veggie par excellence, l'avocat, Nicolas. L'avocat, le fruit, puisque c'en est un, qui connaît la plus forte progression de ses ventes depuis près de 5 ans maintenant, essentiellement en Europe, essentiellement en France et en Allemagne. En 2010, les Allemands avaient ainsi importé 28 000 tonnes d'avocats, mais 45 000 tonnes l'an dernier. La puissante association végétarienne Vegetarierbund en recommande la consommation quotidienne. Le principal site de vente allemand de produits bio s'appelle Avocados d'or, sans parler évidemment de l'innombrable littérature qui vante tous les bienfaits du fruit, un super aliment jugé excellent pour le cœur, la circulation, contre le cancer, même contre les rides et la cellulite, ouais, si. Un récent colloque médical allemand le présentait comme le pire ennemi du cholestérol, capable, nous dit-on, de faire diminuer de 22% le taux de mauvais cholestérol dans le sang, époustouflant. Sauf que nos confrères allemands du grand hebdomadaire Die Zeit ont enquêté sur les modes de production de l'avocat. Direction donc l'Afrique du Sud, premier exportateur au monde. Reportage dans la ZZ2, une gigantesque ferme de la province du Limpopo, dans le nord du pays. Des milliers d'hectares couverts d'avocatiers. Propriétaire blanc, richissime, ouvrier noir, à peine moins que pauvre. Ça, c'est la photo sociale et la photo écolo, et pire encore. Pour produire un kilo de tomates, c'était la précédente production de cette ferme, il faut en moyenne 180 litres d'eau contre un millier de litres pour un kilo d'avocat. Vous avez bien entendu, 1000 litres pour trois fruits. Des dizaines de kilomètres de tuyaux amènent l'eau des montagnes dans cette vallée où 7 habitants sur 10 n'ont pas l'eau courante. Puis vient évidemment l'acheminement vers l'Europe en bateau spécial. 26 jours de traversée dans des containers climatisés extrêmement énergivores. Débarqué à Rotterdam, le précieux fruit est ensuite bichonné dans des mûrisseries, là encore à grand renfort de climatiseurs, avec température qui change d'heure en heure durant 6 jours. Conclusion dite Zeit, l'avocat est peut-être un bienfait pour notre organisme, mais c'est un véritable carnage écologique pour la planète. À demain.
À demain, on va manger des rillettes, hein, donc nickel. À demain.